Le bleu.
Le calme. Calme.
France Inter.
Calme.
Calme. C'est l'instant bleu.
Calme.
Thierry Dujon.
Sur iTélé, le journal de 18h se termine et le présentateur n'a rien dit de l'événement médiatique du moment. TF1 engage un journaliste à la peau noire comme joker de PPDA pour son 20h. En même temps, c'eût été de l'égocentrisme malvenu, car le joker de la une, bah, c'est lui, le pour l'instant toujours présentateur de iTélé. Cravate marron clair sur chemise gris foncé, sobre donc. Harry Roselmack fait comme si aucun tourbillon n'agitait son crâne bien lisse et en 10 minutes démontre que TF1 a avant tout, et notamment avant la couleur, choisi un bon professionnel. Il n'empêche, toute la presse s'est arrêtée sur l'événement, car c'en est un. Et le papier le moins intéressant n'est pas celui du Monde. Le quotidien du soir nous apprend que l'un des premiers informés aurait été Nicolas Sarkozy. Le ministre de l'Intérieur s'en serait lui-même vanté devant les membres d'une association pour la promotion des minorités qu'il recevait, place Beauvau, en annonçant avant tout le monde « Grâce au lien qui me rapproche de Martin Bouygues, je sais qu'il y aura un noir aux 20h de TF1 cet été ». Les présentateurs de TF1, les journalistes politiques d'Europe 1, décidément, rien des médias ne lui échappe. D'ailleurs, je devrais pas trop le taquiner des fois qu'il écoute France Inter le soir à 22h.
C'est l'instant bleu.
Entraînement d'un sportif ou d'une équipe. Voilà la première définition que le dictionnaire donne du mot coaching. La seconde, c'est démarche d'accompagnement d'un dirigeant ou d'une équipe dans la réussite de ses projets professionnels. Mais dans les faits, qu'est-ce que le coaching? Comment ça marche? En quoi cette technique très médiatisée depuis quelques années diffère-t-elle de la psychothérapie par exemple? Comment distinguer les bons coachs des escrocs qui surfent sur cette mode très lucrative? Ce sont les questions que se pose l'instant bleu ce soir. Bonsoir Fanny Guinochet.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et auteur d'un livre que les éditions ESF publient dans leur série de guides management. Le titre de votre guide est très ambitieux, c'est « Toutes les clés d'un bon coaching ». En combien de temps et en rencontrant qui les avez-vous trouvées, toutes ces clés ?
C'est un travail au long cours parce qu'on a démarré ce livre en octobre, il sort aujourd'hui. On a rencontré, j'ai dû rencontrer une vingtaine de coachs et le double de gens qui ont fait des coachings.
Qui en ont suivi. Bonsoir Thierry Chavel.
Bonsoir.
Sur vos papiers administratifs, à la question « Quelle est votre profession » qu'inscrivez-vous ?
Alors ça dépend. Si c'est des administrations officielles, bah, je mets chef d'entreprise parce que je suis associé dans un cabinet.
Ouais.
Si c'est moins officiel, je mets coach de dirigeant.
Coach de dirigeant, d'accord. Que pensez-vous de cette définition du dictionnaire que je donnais à l'instant, démarche d'accompagnement d'un dirigeant ou d'une équipe dans la réussite de ses projets professionnels?
Ça me va très bien.
Ça vous va très bien. Donc le dictionnaire est en phase avec Thierry Chavel. La première définition du dictionnaire, je vous le disais, reste quand même entraînement d'un sportif ou d'une équipe. Et il faut savoir que ce sont les coachs de sport qui ont donné l'idée à l'entreprise d'appliquer dans ses murs les méthodes des stades. Bonsoir Daniel Costantini.
Bonsoir Thierry.
Le grand public vous connaît pour avoir entraîné les Barjot, les handballeurs de l'équipe de France, sacré champion du monde en 1995. Depuis combien de temps, Daniel, les entreprises font-elles appel à vous ?
Ah ben depuis le premier succès des Barjot, puisque pour qu'on fasse appel à vous, il faut quand même avoir une carte de visite.
Mais ça a commencé tout de suite.
Ça a commencé dès le lendemain du succès de 1995.
Quel genre d'entreprise ?
Oh, c'est très varié. Disons qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut dire que j'ai sévi dans tous les milieux, soit de la vente d'automobiles, dans l'agroalimentaire, dans la finance, vraiment.
Des grosses boîtes.
Très
éclatées. Plutôt des grosses boîtes.
Très grosses boîtes. Ouais.
Portrait des coachs et du coaching dans un instant bleu, bien sûr.
Toujours au turbin, du soir au matin, moi j'en ai marre. Dois toujours manger de la vache enragée, moi j'en ai marre. Se dire que ma peine, je la traîne fourbu, jusqu'à ce que je crève sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre. N'avoir pour croque-nous que ceux qui prennent de l'eau, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans cette sociale, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. urbain du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. En fait de tendresse, de caresse, je n'ai rien que celle que si bonne me donne mon chien. Recevoir des beignes sans personne me plaigne, moi j'en ai marre. Voir quand on m'approche que les gens me trouvent moche, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre.
Alors quand Bruno Carpentier et moi avons dit à Djoubaka qu'on organisait une émission sur le coaching, son œil s'est mis à friser. Il nous a dit « Les gars, j'ai un truc pour vous. » Le truc pour vous, c'est Arletty. Et c'était Jean Neymar.
Écoutez l'oiseau.
C'est un rossignol.
C'est l'instant bleu.
Un rossignol ?
Faisons pas de bruit. Nous allons descendre dans le bois et nous asseoir près de lui.
Sur France Inter.
C'est un jeune et très controversé métier que l'Instant Bleu s'intéresse ce soir, le coaching, cette technique d'épanouissement personnel et professionnel qui se développe à vitesse grand V mais reste peu ou mal encadrée et donc génératrice de dérives philosophiques ou mercantiles. Avec nous Fanny Guinochet, journaliste, auteur d'un guide intitulé « Toutes les clés d'un bon coaching » qui sort en ce moment. Daniel Costantini, entraîneur connu pour avoir donc mené l'équipe de France de handball au titre de championne du monde en 1995 et aujourd'hui coach en entreprise à l'occasion. Et Thierry Chavel, qui a donc créé son propre cabinet de coaching. Félicitations Thierry Chavel, je vais commencer avec vous. Où et quand est né ce métier, Thierry ?
Alors, il est né aux États-Unis dans les années 60, d'où le mot anglo-saxon, qui vraiment inspire une logique très orientée performance, orientée sport aussi. Il est né il y a plus longtemps, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec Socrate, puisque c'est aussi fondé sur cette philosophie d'accouchement des esprits que Socrate pratiquait. Bénévolement, ça on l'oublie un peu aujourd'hui, et avec une logique extrêmement ironique, c'est-à-dire que le but était de provoquer et de déstabiliser par un questionnement ouvert.
Et ça reste la philosophie centrale du coaching aujourd'hui ?
On pourrait débattre parce que c'est une profession jeune. C'est une profession jeune, hein, vous le disiez. Donc il y a des coachs, il n'y a pas de coaching pour moi. Donc il y a des coachs avec des orientations philosophiques différentes.
Aux États-Unis, dans les années 60, là, quand il naît, le sport est sa source d'inspiration, dit-on ?
Oui, avec une approche extrêmement comportementale. C'est-à-dire que dès le départ, l'objectif est de calquer sur la personne les mêmes critères que ceux qu'on utilise pour l'entreprise. Donc une logique de résultat, une logique de plan d'action très très concrète et très opérationnelle. Quand ça traverse l'Atlantique dans les années 70-80, bah évidemment, ça va s'imprégner d'une logique européenne, plus littéraire, on pourrait dire, où on va s'intéresser aussi à la dimension psychologique de la performance, donc aux peurs,
au stress. Ce qui est moins le cas aux États-Unis.
Aujourd'hui, c'est un marché à maturité aux États-Unis, donc c'est beaucoup plus industrialisé, beaucoup plus standardisé. Et c'est vrai que l'approche psychologique d'inspiration psychanalytique est moins présente.
Justement, à propos de sport et de coaching en entreprise, Daniel Costantini, en quoi consiste le travail d'un coach en entreprise aujourd'hui, ancien coach d'équipe sportive comme vous? Et puis surtout, où est-ce que selon vous, les deux styles de coaching se rejoignent, se rencontrent?
Alors, pour répondre à la première question, je dirais, à mon avis, enfin, autant que je puisse en juger moi, hein, parce que bon, moi, je suis un petit peu un épiphénomène là-dedans, il y a deux conceptions du coaching en entreprise. Il y a le coaching individuel, c'est-à-dire un chef d'entreprise qui est un petit peu préoccupé par ses responsabilités, sollicite la poigne d'une ressource humaine qui va lui être totalement dédiée et qui, partant de lui et partant de ses objectifs, va essayer de l'accompagner. Et puis, il y a ce qui est un petit peu plus de mon ressort, c'est-à-dire une aide managériale à des gens qui, parfois, se trouvent en situation de devoir manager des ressources humaines sans en avoir ni la formation, ni a priori les compétences. Donc, ils ont des connaissances techniques ou des connaissances particulières. Et puis, tout d'un coup, ils se trouvent avec des ressources humaines à mettre en bon état. Alors, c'est vrai que là, un coach sportif peut quelque part les aider quant
à la démarche.
Pourquoi ?
Quels sont les leviers communs ?
Je dirais, quand je m'exprime devant une entreprise, je leur dis qu'il y a deux choses à considérer. Il y a un, ce qu'on appelle les prérequis de la performance, c'est-à-dire comment faire en sorte de mettre les gens en situation d'expertise l'apologie de l'entraînement, l'apologie de la répétition, l'apologie de l'automatisation du probable. Il y a une deuxième chose qui est de connaître les ressorts de la motivation intrinsèque, parce qu'il suffit que dans une équipe, l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles ne soit pas motivée et ça peut vous foutre tout en l'air. Et puis, il y a la troisième partie qui est surtout le respect des autres. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, souvent, l'entreprise s'est divisée pour mieux régner. Et une équipe qui gagne, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, chacun respecte l'autre. Chacun sait à peu près ce que va faire l'autre aussi pour essayer d'avoir la synergie. Et puis, au-dessus de tout ça, il y a le style de management, le style d'expression du leadership. Et il y a deux styles complètement opposés. Il y a le directif, que je fus, et le participatif, que je suis devenu. Donc, moi, ce que je vends, c'est plutôt une technique de plus en plus participative.
Participative. Quand vous dites que vous fûtes à l'époque où vous dirigez l'équipe de France.
Voilà,
de
parce que vous avez parlé de 95. Hein. Bon, parce qu'il y a 2001
ouais,
aussi.
Ouais. Oui, c'est vrai, il y a 2001.
Voilà,
aussi.
95, très directif, et ouais. 2001, le plus participatif.
Le titre
possible.
En 2001, c'est quoi ?
Champion du monde, pour la deuxième fois, tout simplement.
Il est trop fort, c'est bien Constantini. Fanny Guinochet, votre guide commence par expliquer à quoi peut servir un coaching. Moi, justement, j'aimerais savoir à quoi ça sert, le coaching.
Bah, justement, Daniel Constantini l'a bien dit, ça répond à un objectif. Souvent, c'est les coachings en entreprise, les coachings professionnels sont payés par les entreprises. Les entreprises ne sont absolument pas philanthropes. Grosso modo, ça peut être pour régler un problème dans une équipe, un conflit, un manager qui a un conflit avec... des personnes de son équipe. Ça peut être un manager qui n'arrive plus à faire face, qui se sent complètement sous l'eau parce qu'il a trop de tâches, trop de responsabilités. Donc là, ça peut être un coup de pouce. Il y a plusieurs cas de figure où le coaching a fait ses preuves.
Vous écrivez par exemple que le coach aide à gérer son stress. Par exemple, en repérant les signes concrets, c'est quoi les principaux signes du stress dont on n'a pas forcément soi-même conscience ?
Bien sûr. En fait, l'énorme avantage du coach, c'est d'être en dehors. C'est d'apporter un regard extérieur et d'en faire un feedback. Et c'est vrai que l'exemple que je prenais d'un manager qui est complètement débordé, qui est dans ce que l'on appelle dans le vocabulaire d'entreprise au bord du burn-out, donc
de la rupture,
va pas se rendre compte qu'il prend plus le temps de respirer, qu'il prend plus le temps, qu'il a des rapports beaucoup plus agressifs avec les personnes parce qu'il est très irritable, qu'il ronge sur son temps de sommeil.
Il n'entend plus,
il ne voit plus. Et il y a quelqu'un qui vient pointer du doigt là où ça fait mal et qui lui dit « tu ne te rends pas compte, voilà ».
Parce qu'en lisant le guide de Fanny Guinochet, Thierry Chavel, je lisais par exemple il encourage, le coach est là pour encourager par exemple une bonne oxygénation sportive, une alimentation équilibrée, tout ça. Franchement, je me demande en quoi j'ai besoin de vous pour savoir qu'il faut que je mange bien et que je fasse du sport pour aller mieux que si je mangeais mal et que je ne faisais pas de sport.
Ouais, je relève la question, effectivement. Je ne suis pas sûr que vous en ayez besoin. En revanche, ça peut être utile. C'est-à-dire que être coaché, c'est une réponse intégrale à une problématique qui est souvent posée. Voilà, il y a une demande qui va être celle que Fanny Guinochet évoque. Et puis, on s'aperçoit dans le cours des entretiens avec la personne coachée que derrière cette demande, il y a d'autres besoins. Alors, ça peut paraître effectivement un peu artificiel de parler d'équilibre de vie, de sommeil, etc. Mais la personne, elle est une. Elle ne laisse pas sa vie privée à la maison quand elle arrive au bureau et réciproquement. Donc, c'est vrai qu'on est amené... Et c'est un des paradoxes de la profession, à investiguer des aspects un peu génériques de la personne sans faire semblant de regarder juste le costume professionnel.
Fanny ?
Et puis en même temps, c'est juste les symptômes. La gestion du stress, c'est un symptôme. Mais effectivement, comme le dit Thierry, c'est vraiment une méthode, une démarche qui est très très globale, où il y a plusieurs procédés pour aller au fond du problème. Là, on s'est arrêté. Le stress, c'est une manifestation comme quoi ça ne va pas.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est un exemple comme ça, je sortais du guide. Daniel Constantini, vous coachez, vous intervenez surtout auprès de cadres, j'imagine ?
Oui, voire cadres supérieurs. C'est ce contexte-là que je préfère. Parce qu'il nous arrive d'être sollicité, je dis nous parce que je ne suis pas le seul, sportif, vous savez très bien. Il nous arrive d'intervenir dans des grands messes où la totalité de l'entreprise est représentée.
Vous y croyez, ces interventions ?
Alors, bon, non, là, c'est une respiration au cours d'un séminaire. Il faut plutôt que le moment soit agréable que porteur de messages ou surtout d'interpellations. Par contre, quand on est entre nous, c'est-à-dire entre managers, qu'ils soient d'entreprise ou de sport, là, je pense que la portée peut être beaucoup plus grande.
Oui. Et quand vous intervenez, c'est par session, c'est par journée, c'est vous...
Il y a un petit peu de tout. C'est vrai que l'entreprise, en ce qui me concerne, préfère ce qu'on appelle le one-shot. Vous savez, vous arrivez, on vous donne une heure et demie, vous faites votre numéro du Daniel Herrero, hein, pour parler de quelqu'un d'assez célèbre en ce genre d'intervention. Mmh. Mais c'est vrai que ce qui est beaucoup plus porteur, c'est quand on a au moins une journée pour travailler avec les gens, que vous les interpellez à travers de votre discours initial sous forme d'une conférence, qu'ensuite il y a un échange et qu'enfin il y a des ateliers. Là, je pense que c'est là où l'investissement, bien sûr à ce moment-là il est plus important, mais l'investissement me paraît le plus intéressant pour l'entreprise.
Thierry Chavel, vous vous occupez plutôt de cadre supérieur, vous qui avez un cabinet, donc votre propre cabinet de coaching aujourd'hui.
Oui, alors plutôt de cadre sup et de cadre dirigeant. Je crois qu'aujourd'hui il y a un effet de mode autour du coaching qui fait qu'on imagine que tout le monde peut être coaché pour des raisons d'abord budgétaires et ensuite politiques. Ça reste réservé à des happy few, donc des sphères dirigeantes ou d'état-major. Et puis il y a un autre fantasme qui circule, c'est l'analogie avec le sport. Alors je ne sais pas ce que Daniel Constantini en dira, mais les dirigeants d'entreprise, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas des gens qui sont dans la logique de sportifs de haut niveau. Ils ne sont pas dans l'exploit, ils sont plutôt dans l'idée de durée. Ils sont dans des enjeux de pouvoir, dans des enjeux, on va dire, beaucoup plus systémiques hein, que dans une relation au sport. Et le mot est ambigu, c'est-à-dire que du coup, ça véhicule un peu un fantasme de « on va tous être coachés dans un esprit sportif ». L'entreprise, ça reste un espace de compétition et de compétition marchande. Donc, ce n'est pas forcément la même chose que dans le sport.
Ça fait partie des nouveautés du moment, toujours extraites de ces petites boîtes magiques par Joob. C'est Winston McAnuff et le titre, c'est Reggae on Broadway.
C'est pas un mystère, mais c'est une couleur particulière.
C'est l'instant bleu.
C'est royal, c'est juste ce que j'aime.
Le coaching, donc, cette étrange bébête à la mode que pratique, voire courtise des entreprises de plus en plus nombreuses. Question pratique, Thierry Chavel, vous qui êtes coach, ça coûte combien un coaching ? Ça coûte combien une séance de coaching ? Ça coûte combien un coaching complet ? Et là, vous allez me dire, ça dépend, Thierry.
Non. Il y a un tarif, en gros, qui est entre 250 et 450 euros hors taxe de l'heure. Donc on voit tout de suite que c'est payé forcément par l'entreprise.
250 et 400 euros hors taxe de l'heure. Ça va la vie, Thierry Chavel. Combien de séances en moyenne pour un coaching bien ficelé ?
C'est entre 10 et 12 séances. Faut le comparer avec les honoraires du conseil en stratégie ou des avocats d'affaires. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où le dirigeant, il est sommé d'incarner l'entreprise. Donc il a une pression, il a aussi une pression symbolique. C'est-à-dire qu'on lui demande aussi de porter une vision, d'être cohérent entre son discours et sa pratique, d'assumer une image. Enfin voilà, c'est des questions qui sont absolument clés. Et souvent, on a des actionnaires qui mandatent les coachs. C'est-à-dire de plus en plus, il y a les conseils de surveillance dans une logique de gouvernement d'entreprise.
Qui demandent du coaching.
Qui disent, voilà, il faut absolument faire coacher l'équipe de direction parce que ça a un impact sur la fameuse valeur de l'entreprise.
Une séance, là, ça dure combien de temps ?
Dans ma pratique, c'est entre 2 et 3 heures. Ça, c'est plus variable d'un praticien à un autre.
D'accord. Dans votre pratique, entre de 2 à 3 heures. Est-ce que vous donnez, entre guillemets, des devoirs à faire à vos coachés entre les séances ?
Il y a des plans d'action, il y a des objectifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être sur un registre extrêmement pratique, avec, voilà, je dois d'une séance à l'autre préparer telle réunion. Ou ça peut être sur un plan beaucoup plus intime, d'aller explorer des émotions, d'aller explorer une façon de se comporter dans une réunion, une façon d'écouter qui est différente. On est plus intéressé par le feedback que le coaché va nous donner après la séance, après son plan d'action, que par le fait qu'il ait fait ses devoirs ou non. Sinon, ça serait très scolaire, très infantilisant.
Fanny Guinochet, je rappelle que vous êtes journaliste et l'auteur donc de ce guide qui vient de sortir, Toutes les clés d'un bon coaching. Vous expliquez dans ce guide notamment que l'un des travaux du coach, c'est parfois aussi de reconstruire la confiance en soi, de remotiver l'individu. Ça passe par quoi ? On s'y prend comment ?
Ça part par de nombreuses méthodes qu'il serait trop long d'exposer là, mais quand même, certes, Thierry Chavel parlait du coaching de dirigeants qui est le plus répandu, mais par exemple, la NPE propose des coachings avec des coachs. Et là, c'est le meilleur exemple. Un cadre supérieur qui a été porté au nu pendant des années, qui se retrouve licencié parce qu'il y a un changement d'actionnaire dans sa boîte ou parce qu'il y a une difficulté. Là, la confiance en soi, elle est sérieusement entamée. Et donc, pour qu'il reparte sur le marché du travail, dont on sait quand même qu'il est aujourd'hui assez difficile, sinistré, etc., une petite dose de coaching, ça ne fait pas de mal pour lui dire qu'effectivement, il n'est pas le plus mauvais, qu'il peut retrouver un poste à la hauteur de ses ambitions, qu'il faut qu'il soit patient. Et il y a tout un travail qui donne d'ailleurs de bons résultats. Hein. Je ne fais pas un hommage à la NPE spécialement, mais ça peut donner de bons résultats.
Alors Daniel Costantini, je fais appel au coach, à la fois en entreprise que vous êtes à l'occasion aujourd'hui, à l'ancien coach de l'équipe de France de handball. Comment est-ce qu'on remotive un individu, alors qu'il soit un joueur ou un cadre d'entreprise, mais en l'occurrence un joueur, comment est-ce qu'on remotive un joueur qui n'y croit plus ?
Alors là, je vais plutôt répondre en tant que coach sportif, parce que c'est quand même là que j'ai la plus longue expérience. Je dirais, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, c'est basé sur des croyances. On appelle ça les croyances en ses capacités personnelles. Donc la croyance, c'est assez subjectif. Et pourtant, il faut déboucher objectivement sur un rétablissement d'une entité qui est essentielle pour pouvoir réussir. Donc nous, en sport, la chance que nous avons, et c'est souvent, on parlait tout à l'heure avec Thierry des différences entre le sport et l'entreprise, c'est qu'en sport, nous passons 90% de notre temps à nous préparer et 10% du temps à faire des perfs. L'entreprise est dans un ratio complètement inverse. Dans le meilleur des cas, c'est parfois 100% de compétition en entreprise. Et trouver dans cet espace-là le temps de revoir ses fondamentaux, de les répéter s'ils n'ont pas été assez, et de se mettre en situation de progrès personnel. Voilà, quelque chose à laquelle je crois beaucoup, moi, c'est ce que j'appelle le progrès personnel permanent. Alors, dans le sport, il y a des gens qui s'occupent de vous pour ça. Dans l'entreprise, ce n'est pas évident, mais c'est vrai que le travail du coach, s'il est bien en empathie avec son client, entre guillemets, il doit essayer de le mettre en situation de progrès personnel permanent, parce que c'est là ça marche.
Et
à
alors,
tous les coups.
Dans l'entreprise comme dans une équipe sportive de haut niveau, il y a le cas de figure inverse où c'est pas tant un problème d'estime de soi ou de confiance en soi qu'un problème de paralysie devant l'obstacle, devant l'enjeu. Comment est-ce qu'on débloque quelqu'un qui angoisse parce que voilà, il vient d'être nommé à un nouveau poste très important, ou un joueur qui flippe parce que il va jouer la finale du championnat du monde?
Ouais. Alors avant de vous répondre, Thierry, tout à l'heure vous avez presque fait une analogie entre confiance en soi et estime de soi. Ce sont deux choses complètement différentes. Et justement, ce à quoi vous faites allusion, c'est un petit problème vis-à-vis de l'estime de soi, de la préservation de l'estime de soi. Et nous disons qu'il faut prendre garde à ce que dans votre équipe, il n'y ait pas quelqu'un qui est un petit peu écrasé par sa responsabilité, écrasé par la tâche que vous venez de lui confier. Il est en prise à un conflit avec la préservation de l'estime qu'il a pour lui-même. Et celui-là, au lieu d'agir pour réussir, il va surtout agir pour ne pas être responsable à la sortie de l'échec qui sent quasiment inéluctable. Alors, pour vaincre ça, il y a deux recettes, il y a deux antidotes. Il y a la technique Giroud, le pessimisme défensif. Ne jamais affecter à un être humain un objectif qui pourrait éventuellement le dépasser. Vous savez, Giroud, on l'entend tous... Vous savez, nous, on était un petit club. Puisque...
Oui, on ne traîne plus.
Et la deuxième méthode, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, le progrès personnel permanent. Un être humain qui se sent meilleur que la veille et qui sait que le lendemain, il sera moins bon qu'aujourd'hui, celui-là, il va s'engager avec confiance dans n'importe quel challenge, parce qu'il se sent en capacité d'eux. Et même s'il ne réussit pas, il ne va pas se suicider, il ne va pas partir avec la nappe. Comme il sait qu'il s'améliore de jour en jour, eh bien, il va accepter la fameuse expression « se remettre en cause ».
Qu'en pensez-vous, Thierry Chavel, vous qui êtes coach de dirigeants plus spécifiquement ?
C'est pas pour rien que ça vient des États-Unis. Je veux dire, moi, je reconnais là-dedans toute la pensée positive, c'est-à-dire cette idée de regarder plutôt la bouteille à moitié pleine que la bouteille à moitié vide. Mine de rien, dans une culture judéo-chrétienne, c'est pas si évident. Et on voit souvent arriver des gens issus de grandes écoles, très bien diplômés, avec une très haute idée d'eux-mêmes, sans doute une très haute estime de soi, mais alors dès qu'il s'agit d'aller dans un registre plus émotionnel, dans un registre qui touche plus la confiance en soi, sont complètement démunis. Ça pose une question d'ailleurs, c'est que pourquoi faire appel à un coach plutôt qu'à un psy ? Il y a aussi un mouvement là, dans l'effet de mode actuel qui est de dire bah, c'est quand même vu comme beaucoup plus culpabilisant, beaucoup plus pénalisant que de dire je vais aller voir un psy. Alors quoi, aller voir un coach, c'est élégant, c'est à la mode, puis on a l'impression de ne pas être malade.
Et bien justement, ça pose une bonne question. Où est la différence selon vous ? La vraie différence entre justement... Est-ce que ce n'est pas un peu un psy d'entreprise, un psy de collaborateur d'entreprise, un coach ?
Oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'on va mobiliser, et les mots qu'emploie Daniel Constantini, auxquels je souscris volontiers, sont bien des mots inspirés de la psychologie cognitive, de la psychologie pratique. Non, parce que je pense que le coaching déborde le champ psychologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la dimension psy, on est aussi dans le jeu social, les jeux de pouvoir, on est aussi dans une certaine intelligence stratégique, on est aussi dans le symbolique, c'est-à-dire quels sont les mythes qui circulent, quels sont les récits, les hauts faits qui circulent dans l'entreprise. Ça, c'est pas l'affaire du psy. Donc je pense qu'il y a une dimension plus globale que simplement la psy.
Vous qui avez un regard plus neutre sur les choses, Fanny Guinochet, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est effectivement deux mondes qui sont très proches. Et pour quand même les séparer, le coach, il y a un contrat qui est passé avec le coach à la base, entre le coach, le coaché et l'entreprise, où il y a quand même une définition d'objectif, alors que la psy, souvent, c'est quand même quelqu'un qui va voir un psy en lui disant « je vais pas très bien », c'est quand même plus vague.
Pas tout à fait, a priori, me fait signe Thierry Chavel.
Mais a priori, les objectifs, en tout cas, au départ, sont un peu plus cernés et pour moi, c'est plutôt l'inverse.
Qu'est-ce qui vous rend sceptique, Thierry Chavel ?
Non, je suis assez d'accord. Je pense qu'il n'y a pas qu'une psy. C'est vrai que quand on fait référence à la psy, on pense surtout psychanalyse en France, qui est l'image d'une thérapie longue, un peu doloriste, hein, donc centrée plutôt sur une pathologie.
Et un coaching, ça dure rarement 10 ans ou 5 ans. Hein.
On est d'accord, mais il y a aussi toutes les thérapies. Bref.
Une psy, ça peut durer 40.
Oui.
Ouais, moi j'avais un client l'autre jour.
Demandez à Woody Allen.
J'avais un client qui faisait un lapsus qui me disait. Un client me disait, moi j'ai 20 ans de psychanalyse et au lieu de me dire derrière moi, il m'a dit devant moi. Je trouve ça assez coquin. Voilà. Mais il y a aussi toutes les thérapies brèves. Les thérapies brèves sont quand même assez proches du coaching, au moins dans l'esprit. Simplement, le client payeur est différent. et puis qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'on peut aussi accompagner quelqu'un dans la totalité de sa performance. Ça a des résonances privées, mais pas seulement professionnelles.
Et dans les exemples que moi j'ai pu voir de coacher, il n'est pas rare que les gens aient démarré par un coaching et finalement se soient dit à la fin de leur coaching, tiens, je continuerai bien par la psy.
Ah oui.
Oui.
Ah, intéressant ça. Fanny parlait de contrat. Daniel Costantini, vous, j'imagine que voilà, c'est un business aussi, donc vous signez un contrat avec une entreprise au moment de l'affaire. Est-ce que les objectifs sont, j'imagine bien que vos interventions, leur rythme, les dates, le salaire, tout ça est prévu noir sur blanc, mais est-ce que des objectifs sont clairement définis? Et si oui, comment le sont-ils? Comment sont-ils formulés, ces objectifs?
Non, moi, c'est pas si clair que ça. C'est-à-dire, la plupart du temps, d'ailleurs, je n'interviens qu'une fois. Hein. Il est rarissime qu'une entreprise me fasse faire, comme c'est le cas pour Thierry Chavel, des interventions
sur la longue durée.
Même si j'interviens toute une journée, je sais que j'aurai ces gens-là en face de moi une fois dans ma vie et certainement pas plus. Donc, en fait, ce qui est recherché, c'est assez vague. On pourrait exprimer ça, c'est la satisfaction du client. Il faut qu'il y ait un indice de satisfaction. Moi, je suis très heureux.
Et à quoi vous la jugez, cette,
cette
satisfaction à la fin du coaching?
À la fin du coaching, c'est très difficile à faire. Hein, parce que d'abord, on est tellement pris par son intervention qu'on a du mal à savoir où on en est en cours d'intervention. Bon, après, il y a toujours un feedback classique. En plus, moi, je travaille par le truchement d'une agence spécialisée qui, elle, se charge ensuite de vérifier de l'indice débriefer, de satisfaction du client. Mais moi, je ne suis pas du tout dans la situation de Thierry qui, lui, accompagne des gens longtemps.
C'est
moi, je serais intéressé par ça, mais je ne m'en sens pas du tout la capacité.
Thierry, vos contrats définissent-ils précisément, avec des mots français, sujet, verbe, complément, les objectifs à la fois pour l'entreprise et puis pour la personne que vous coachez?
Oui, tout à fait.
Alors, ça se formule comment?
C'est en général des objectifs suffisamment vastes pour qu'on puisse mettre dedans, une fois qu'on est dans le colloque singulier, comme dirait les psys, des éléments beaucoup plus intimes, beaucoup plus confidentiels. Il ne faut pas oublier qu'il y a une déontologie qui est forte, à laquelle moi je tiens beaucoup, qui est de dire que le contenu d'un coaching reste la propriété de la personne coachée. Et même l'entreprise n'en a pas connaissance.
Bien sûr, si c'est l'entreprise qui paye, bien sûr.
Ah oui, mais c'est systématique.
Mais vous me prenez pour une truffe, Thierry Chavel.
C'est essentiel. Bon,
enfin,
c'est essentiel.
Je veux bien croire que sur le principe, c'est essentiel, mais enfin, je ne peux pas croire non plus qu'une entreprise, moi, si je suis patron d'entreprise et que je dépense une somme pareille, à un moment, le coach, il ne peut pas me dire non si je demande à voir le contenu des séances.
Ben moi, je le fais et je peux vous dire qu'à Paris 2, donc dans le diplôme universitaire de coaching qui forme des coachs, c'est un des principes de base qui veut que voilà, le contrat est une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Il n'y a aucune restitution faite du coaching, de quelque manière que ce soit, en l'absence de la personne coachée. Donc moi, il m'arrive d'avoir des points d'étape, mais c'est toujours en connaissance de cause de la personne coachée.
Et alors, pour en revenir spécifiquement à la question, ça veut dire que dans le contrat, il est écrit, par exemple, qu'est-ce qui est écrit? Je veux que mon directeur des ventes aille mieux, se sente mieux, je veux qu'il progresse, que ses ventes progressent de 10% l'an prochain, ou dans une période... Comment ça... Les objectifs, ils se formulent comment?
En général, ça va être formulé à la première personne. Donc, j'aurai atteint mes objectifs si j'ai davantage d'aisance dans ma façon de prendre ma place en tant que dirigeant, j'ai moins de conflits entre mon équilibre de vie personnelle et mon équilibre de vie professionnelle. Moi, je suis très attentif aux critères, parce que fixer les objectifs, c'est une chose, mais c'est souvent une promesse d'intention. Ce qui est intéressant, c'est de poser la question à quoi je verrais que j'ai effectivement progressé. Et c'est ce qu'évoquait Daniel Constantini, c'est vraiment quels sont les critères qualitatifs, quoi.
Petrazo, bantifenos, terrazo, forspenos, que paravo. Petrazo, petrazo, bantifenos, terrazo, terrazo, que paravo. Mm-hmm. gadidum de dada yadaridum de dada ralu ken ma palo ne da gadidum de dada yadaridum de dada ralu ken ma palo Petazo, petazo, banti fenos, te vaso, fos penos, cabaravo.
Que tu doses tu.
Tu riras, tant que tu riras. Tu riras, tant que tu pourras.
Mais tu peux du gen, peux du wave, tu caves, de tu.
On aime les diakinum, mais gré de bédon hanon, de dada royo, qu'en ma bobeo. On aime les diakinum, mais gré de bédon hanon, de dada royo, qu'en ma bobeo.
Attitude, attitude, anxiété, attention, frustration, tout azimut. Attitude, attitude, anxiété, inquiétude. Attention, frustration, tout azimut. Tu vois des voitures qu'on brûle, t'entends qu'on hurle. Tu vois pas tout ce qui est injuste. Y'en a tant, y'en a tant. Tu vois des voitures qu'on brûle, t'entends qu'on hurle. Tu vois pas tout ce qui est injuste. Y'en a tant, y'en a tant. Chatu, triche, t'es mise, tu.
Et alors ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Alan Stivell. C'est la dernière production d'Alan Stivell. Vachement bien, d'ailleurs. Mise tout, je sais pas si je prononce bien, c'est le titre qui est inscrit, en tout cas, sur la pochette du disque.
Bleu.
Le bleu.
L'instant.
Nous continuons donc dans l'instant bleu ce soir à étudier ce métier assez nouveau et assez mystérieux qu'est le coaching en entreprise. Et donc, parmi nous ce soir, Daniel Costantini qui lui intervient régulièrement dans des grandes entreprises où on est intéressé, où les clients sont intéressés par l'expérience du coach sportif que vous avez été, donc deux fois champion du monde avec l'équipe de France de handball. Je le rappelle, vous arrive-t-il, puisqu'on parlait, on essayait de situer un petit peu la différence tout à l'heure, vous arrive-t-il au cours de ces interventions, de ces sessions, de vous sentir un peu comme un psy d'entreprise, justement ? D'avoir l'impression qu'on attend de vous des déblocages psychologiques ou des choses qui relèvent un peu du domaine
Je dirais pas souvent, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, que l'entreprise en question se serait, je dirais, presque livrée corps et âme à mon attention. Alors, c'est pas si simple que ça. Hein. Je crois que pour arriver à ce résultat, il faudrait que les contacts soient beaucoup plus réguliers, beaucoup plus fréquents, qu'il y ait une prise de température progressive qui amène à cette liberté, hein, laissée à l'intervenant, etc. Donc je pense que les entreprises se protègent un petit peu. Bon, en fait, très prosaïquement, elles comptent sur moi pour redonner le moral aux troupes, si tant est qu'elles en aient manqué. S'il y a eu une réussite avérée l'année d'avant, de ne pas faire la même chose que les champions du monde de handball 95 qui se sont ramassés à Atlanta l'année d'après. Donc là, je peux parler en connaissance de cause.
Ah oui, donc comment gère-t-on sa oui. propre réussite ?
Voilà, parce que ce qui est assez étonnant dans ce que peut-être fait ma spécificité dans ce genre d'intervention, c'est que, je le dis souvent aux gens, je pense qu'ils ont plus à tirer de mes cicatrices que de mes médailles. Je crois que les succès relatés par ceux qui les ont vécus paraissent toujours très impertinents. Hein. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour Aimé Jacquet, sauf quand il parle de sa réussite en 98, parce que bon, on a l'impression qu'il avait tout prévu. Quoi. Alors, bon, bref. Mais par contre, quelques claque dans la gueule que j'ai pu prendre dans mon métier et souvent dans les endroits les plus dramatiques, c'est-à-dire les Jeux Olympiques d'Atlanta, les Jeux Olympiques de Sydney. C'est pas rien les Jeux Olympiques quand vous réussissez pas parce que là, il y a tout le monde qui vous regarde. Ça, ça peut être porteur de sens pour les gens qui savent un petit peu lire entre les lignes.
Ouais, donc analyse, gestion, voilà. Digestion de ses propres échecs. Il y a un autre aspect dont vous parlez, Fanny Guinochet, donc, vous qui êtes l'auteur de ce guide-là qui vient de sortir toutes les clés d'un bon coaching, qui est la nécessité de savoir lâcher prise. Qu'est-ce que c'est lâcher prise ?
C'est pas évident, mais effectivement, c'est aussi arriver à faire le deuil d'un échec, de vivre, d'aborder l'avenir sans porter tout le poids d'un échec ou d'une réussite. Enfin, je pense que vous serez d'accord.
Parce qu'en même temps, ça va complètement contre cette expression qui est très à la mode, quoi, en tout cas dans le milieu du sport, quand on s'intéresse un peu au sport, c'est un truc qui, justement, depuis la Coupe du Monde de foot de 98, parce qu'on l'a vu dans un documentaire, on l'avait entendu dans un documentaire à répétition, on n'en peut plus l'entendre aujourd'hui, c'est le fameux ne rien lâcher, justement. Alors, lâcher prise, ça semble l'antithèse de ce fameux ne rien lâcher qui est devenu le graal absolu de la vie d'aujourd'hui.
Oui, mais ce ne rien lâcher, c'est devenu un poncif, à mon avis, qui n'a plus du tout le sens qu'il pouvait avoir dans la bouche d'Aimé Jacquet à un certain moment. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, ne rien lâcher, c'est une façon de se donner apparemment une ligne de conduite. Mais on sait très bien que ne rien lâcher, surtout quand vous avez un adversaire qui est en face de vous et que cet adversaire vous fait peur ou que cet adversaire, tactiquement, il est plus fort que vous, de toute façon, à un moment donné, vous allez lâcher. Ce qui est important, c'est comment vous allez réagir le lendemain.
Exactement. Et c'est surtout ne rien lâcher, c'est surtout pas se remettre en question. Donc ça pose aussi problème. Parce que dans le monde de l'entreprise, elle évolue tout le temps. Et en général, c'est ça que l'on cherche. Un coach, c'est un accompagnateur aussi du changement. Donc il est là pour faire en sorte que demain l'entreprise fusionne, demain elle se casse la figure, demain elle perd un marché, demain elle est portée comme leader, elle a toute la presse qui parle d'elle, comment on réagit face à ça ?
Thierry Chavel, vous qui êtes coach, donc vous avez votre propre cabinet et vous coachez pas mal de dirigeants, notamment pour des grosses boîtes. Il y a aussi un autre aspect qu'évoquait à demi-mot tout à l'heure Daniel Costantini, qui était la gestion des troupes, alors collectivement ou individuellement. Et donc, qui dit gestion des troupes, dit gestion de personnalités multiples. Et donc, des personnalités les plus importantes du groupe. Ça se gère, j'imagine. Il y a des leaders dans tous les groupes, dans toutes les meutes. Il y a des chefs de meute. Le terme n'est pas très joli, mais est-ce qu'il vous arrive justement de travailler là-dessus, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que quelqu'un qui ne semble pas prêt à assumer des tonnes de responsabilités puisse le faire après un coaching, ou est-ce que c'est inenvisageable de changer comme ça la personnalité de quelqu'un en entreprise ?
Non, ça c'est inenvisageable parce que ça serait prométhéen. C'est-à-dire, ça voudrait dire qu'on peut de l'extérieur motiver quelqu'un ou gérer quelqu'un. Moi, je me méfie beaucoup de l'ambiguïté autour du mot coaching parce que c'est cette espèce de culte de la performance dans lequel on est aujourd'hui. Donc il faut gérer, il faut motiver de l'extérieur. Le coach, il n'est qu'un miroir, alors un miroir réfléchissant, un miroir subversif. Parce que c'est très subversif de dire ce que disait Daniel Costantini tout à l'heure, de parler de ses blessures, d'amener un dirigeant à regarder que sa puissance, c'est d'abord d'assumer sa fragilité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aider quelqu'un à en enlever dans ses croyances, à en enlever dans ses...
Enlever de quoi ?
À enlever ses peurs, à enlever ses inhibitions. Moi, je ne parlerai pas de personnalité, parce que voilà, ça serait un autre champ qui serait plus clinique de travailler sur la personnalité. Par contre, c'est d'aider quelqu'un à davantage utiliser ses points forts que ses points faibles, à regarder plutôt son envie. On a des dirigeants aujourd'hui qui ne savent plus très bien à quel sens se vouer. Ils ne savent plus comment donner du sens, ils ne savent plus parfois quel est le sens de leur carrière. J'aime beaucoup l'idée que l'intervention que vous faites, Daniel, peut être très très complémentaire d'un travail de coaching. Parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a un côté mentor dans ce que vous faites. C'est une forme d'exemplarité. Et c'est vrai que ça permet aussi de redonner de la métaphore, de redonner du sens à l'entreprise, de dire, voilà comment ça se passe dans le sport. c'est pas transposable, hein, j'imagine que c'est pas transposable, mais c'est aussi une façon de dire...
C'est-à-dire que je pense qu'un dirigeant, il peut recevoir, même s'il est pas, même si c'est pas sa nature, tout à coup, il va entendre, s'il entend que c'est le mec qui a été deux fois champion du monde de hand, en l'occurrence, qui lui dit, mais moi, ce dont j'ai beaucoup appris, c'est essentiellement mes échecs et mes blessures. Là, je pense que pour le coup, il va se dire, ah oui, bah alors peut-être que c'est envisageable.
Alors, absolument. Et là, vous mettez le doigt sur un des mécanismes de succès du coaching, mais de succès de toute équipe, c'est le mimétisme. C'est-à-dire qu'on apprend d'abord par mimétisme, on apprend en imitant les autres. Un des problèmes du mimétisme quand il n'y a pas d'intervention extérieure, c'est la violence symbolique. C'est-à-dire que la personnalité difficile ou qui n'est pas forcément prête à assumer du leadership, elle va se retrouver bouc émissaire. Et ce qu'on essaye d'éviter, vous, les uns et les autres, un mentor, coach, parfois même consultant, c'est que l'entreprise dévore une victime émissaire. C'est très confortable d'avoir quelqu'un dont on charge, enfin, qu'on charge avec tous les problèmes de l'équipe.
Les leaders de groupe, Daniel Costantini, dans le sport, c'est réel. Il y a, voilà. Alors, dans une équipe, il y a forcément des leaders. On les gère forcément pas pareil.
Tout à fait. Mais si, encore, très immodestement, je dois encore faire référence à ma carrière.
Ah, mais moi, je la fais pour vous. Pendant, donc ne soyez pas modeste.
Pendant mes années de directivité, je dirais les leaders. Bon, quand il y en avait qui se décrétaient. Mais pas de souci, je faisais avec, hein. Mais ça n'était pas mon problème. Le leader, c'était moi. Je me mettais au centre du projet et ça fonctionnait très bien comme ça. Par contre, à partir du moment où j'ai décidé de fonctionner autrement, c'est-à-dire par une méthode beaucoup plus participative, je me suis aperçu que, bien sûr, le leader était devenu très important, mais que le rôle de leader pouvait être polymorphe. C'est-à-dire, à certains moments, le leader était quelqu'un qui était capable de... C'était Bonaparte au pont d'Arcole, hein, il fallait qu'il entraîne les autres. Puis à d'autres moments, c'était quelqu'un qui était le plus à même de tirer la leçon d'une expérience passée, ou d'intervenir sur tel joueur n'est pas habilité, n'importe qui, pardon, n'est pas habilité pour agir sur tel joueur essentiel, mais qui est en difficulté, etc. Donc on a trouvé tout un tas de personnes, leaders ou pas, mais intervenant, hein, dans le leadership de l'équipe,
comme des relais.
Au moment opportun, des relais.
Comme
exactement.
Des relais. Le temps passe vite, donc j'aurais quand même qu'on aborde une chose qui est quand même essentielle. Un des problèmes du coaching aujourd'hui, c'est donc, on le disait, que c'est une profession assez jeune, donc un petit peu moins clairement encadrée que la psychothérapie dont on parlait tout à l'heure. Et alors, Fanny Guinochet, votre livre, votre guide nous dit « Soyez vigilants, choisissez un vrai coach ». D'abord, qu'est-ce que c'est un vrai coach en comparaison à un faux coach ?
C'est difficile de donner une typologie d'un vrai coach. En tout cas, c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui où il y a vraiment à boire et à manger, où il faut être quand même très, très vigilant.
Mais alors, comment je m'y prends concrètement, moi, pour distinguer...
Il y a deux, trois petites choses quand même. Tout à l'heure, Thierry parlait du prix et grosso modo des séances, comment ça se déroulait. Si vous allez voir un coach qui vous demande plus de 400 euros de l'heure, vous pouvez vous poser des questions. Si vous prévoit un programme sur plus d'un an, vous pouvez vous poser des questions. Après, c'est aussi beaucoup une intuition personnelle. Le mieux, c'est de le rencontrer, c'est de discuter avec lui. Il faut se faire confiance, il faut se renseigner autour, il faut en essayer plusieurs. Il faut essayer de voir aussi, il y a quand même des sociétés comme la Société française de coaching qui essayent de baliser un peu la profession.
Oui, mais en tout cas, une petite parenthèse. Qu'est-ce qui me garantit à moi sa fiabilité à cette Société française du coaching? Elle sort d'où?
C'est clair, je ne vais pas faire... en plus, il y a plusieurs associations qui se créent. C'est pour ça que je crois vraiment il faut faire le tour, en essayer plusieurs, se laisser vraiment le temps et ne pas se laisser impressionner par un coach qui, justement, a plus de charisme, qui ne propose pas de contrat aussi. Ça peut être... ils ont tous un code de déontologie. Alors après, effectivement, ils peuvent le suivre ou ne pas le suivre, mais il faut quand même demander peut-être à le regarder. Mais c'est vrai que je pense qu'il est important de mettre vraiment un accent parce qu'il y a des dérives qui sont présentes aujourd'hui, comme il y a eu des dérives à des moments de gens qui se sont proclamés
psy. Parce que le métier est jeune, je crois. C'est aussi lié à la jeunesse de ce métier, Thierry Chavel. Oui.
Oui, moi je trouve que c'est aussi une bonne nouvelle que le métier soit jeune. Parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de liberté dans la profession. Demain, quand ça va se structurer sur le modèle du conseil classique, ben on va avoir des très très grosses opérations avec des grands cabinets qui feront sans doute une forme plus standard du coaching, mais peut-être moins libre aussi. Donc il n'y a rien qui remplace la rencontre personnelle, ça, je suis d'accord avec Fanny Guinochet.
La petite voix intérieure.
Faut aussi repérer que ma croyance personnelle, hein, c'est que pour être coach, il s'agit toujours de travailler sur soi. C'est la seule formation que je connaisse. Donc on peut demander à son coach, il travaille sur soi. Et puis enfin, le marché, il est en train de de se réglementer, d'acquérir de la maturité grâce aux clients. Les DRH aujourd'hui référencent des coachs sur des critères de plus en plus rationnels. Souvent, ils sont eux-mêmes coachés. Hein. C'est quand même une bonne façon aussi de choisir son coach et d'avoir été coaché. Mais je crois qu'il faut mettre en garde les gens contre le miroir aux alouettes d'un coaching pour tous et d'un cabinet de coaching idéal. Il n'y a pas un coaching idéal.
Ce sera le mot de la fin car le temps file trop vite. C'est la fin de l'Instant Bleu pour ce soir. Je vous rappelle que le livre de Fanny Guinochet, ce guide dont je vous parlais, intitulé « Toutes les clés d'un bon coaching », est édité chez ESF dans la collection des guides Management. Merci à Bruno Carpentier qui réalisait l'émission avec Alain Arnstam et Olivier Rieutor à la technique. C'est assez tôt et Sophie Rimbaud l'avait préparé avec moi. Djoubaka en avait imaginé la structure musicale. Cet Instant Bleu est réécoutable sur le site internet de la chaîne franceinter.com. Merci Thierry Chavel, merci Daniel Costantini d'être passé nous voir. Demain, deux anniversaires, deux tristes anniversaires, le soulèvement des Tibétains contre le régime chinois est l'une des plus grandes catastrophes minières de l'histoire. D'ici là, que la nuit vous soit douce. À suivre et à ne pas manquer, l'invité des ondes de choc de Laurent Lavich ce soir, c'est Patrice Bart-Williams, ce métis, mère allemande Pierre Sierra Leone dans le troisième album Nile vaut le détour. Nous vous en jouerons d'ailleurs un extrait la semaine prochaine, nous aussi, c'est promis. France Inter, vous l'entendez, il est 23h. Et les infos vous sont présentées par José Sétien. Bonsoir José.